بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شفاء الإسلام نغم اسم الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre donc le tafsir, les commentaires de son livre. On s'était arrêté avant les vacances à la moitié du surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Et on avait vu dans le début de ce surat certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, on avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-A'la. On avait dit, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et les ulama rahimahumullah, ils expliquent le sifat de ulu, la qualité d'Allah qui est élevée. Et ils disent qu'il y a deux sens. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit réellement élevé, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son arche. Allahu, il est mustawa ala l'arche, il est établi sur son arche. Allah est à l'endroit le plus haut de tout ce qu'il a créé. Donc Allah est le plus élevé, on pourrait dire sur le plan, subhanallah, mais sur le plan physique, sur le plan dans l'espace. Et également le ulu, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit élevé, c'est également par rapport à ses sifat. Allah est le plus grand, Allah est le plus fort, Allah est le plus puissant, Allah c'est notre créateur, Allah c'est celui qui est parfait, qui a toutes les qualités, et les qualités d'Allah Azza wa Jal sont incomparables avec les qualités de l'être humain. Et on avait expliqué qu'en conséquence, lorsque le musulman fait sa prière, lorsque le musulman se prosterne devant Allah Azza wa Jal, on a vu que les ulama rahimahumullah disent que le musulman intelligent, c'est celui qui au moment où il pose son front sur le sol pour la prosternation, c'est-à-dire dans la position où il est à l'endroit le plus bas du dunya, c'est-à-dire la partie la plus haute de son corps, c'est-à-dire son front, est posée à l'endroit la plus basse, c'est-à-dire au niveau de ses pieds, posée à même le sol. Et dans ce moment-là, paradoxalement, il dit « Subhana Rabbi al-A'la ». Il glorifie Allah qui est le plus élevé. Il dit que ça, c'est un grand signe d'humilité. Un grand signe de tawadu, d'humilité. Moi, je me mets au plus bas de ce dunya et je dis qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand. Allah est le plus élevé. Allah, c'est le créateur qui est parfait. Il dit qu'à chaque fois que le musulman se prosterne et il dit Subhan Rabbi al-A'la, il doit penser que je suis en train de me prosterner devant Azim, devant un créateur qui est grand, qui est gigantesque, qui est magnifique, qui est parfait. Et Allah me donne la chance, la possibilité, le tawfiq de faire un sijda devant lui. Ça, c'est une chance de la part d'Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui vivent dans ce dunya, qui meurent, qui ont eu tout ce qu'ils veulent en termes d'honneur, de richesse, de gloire, de succès, mais qui n'ont jamais eu l'occasion, qui n'ont jamais eu ce cadeau de la part d'Allah que de faire un sijda, que de se prosterner ne serait-ce une fois devant son créateur. Et quel plus grand khasara, quelle plus grande perte pour une créature que de ne pas pouvoir reconnaître son créateur. Quelle vie inutile pour une créature qui ne sait pas se prosterner, qui n'arrive pas à se soumettre devant celui qui lui a donné la vie, qui lui a donné son âme, celui qui l'a créé, et surtout celui auprès duquel il va retourner et qui le jugera pour le temps qu'il lui a accordé dans ce dunya avec toutes les choses qu'il lui a accordées dans cette vie. Donc on a vu un premier sifat d'Allah, Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah Ta'ala est le Très-Haut, Allah Ta'ala est élevé. On a vu également Alladhi khalaqa fasawwa. On avait expliqué qu'Allah Ta'ala est le Créateur, bien sûr. On avait vu que le sifat de khalq, la création, est une spécificité d'Allah Azza wa Jal. Aucune créature ne peut prétendre créer. Aucun scientifique, aucun médecin ne peut prétendre pouvoir créer une cellule, un microbe, un atome, n'importe quoi. D'accord ? Ce que les scientifiques ont pu faire, c'est reproduire la création d'Allah à différentes échelles, plus ou moins proches ou éloignées, mais personne n'est capable de créer. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah ta'ala crée Alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé et agencé harmonieusement. C'est-à-dire dans toutes les créations d'Allah, que ce soit l'être humain,
qui est la créature la plus complète, que ce soit les animaux, les végétaux, les microbes, il n'y a pas une créature qui n'a pas été créée de la meilleure des façons. Lorsqu'Allah Ta'ala crée une créature, elle est créée de la meilleure façon possible. Et la plus belle des créatures d'Allah Azza wa Jal, certainement, c'est l'être humain. Et on avait expliqué quelles sont les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière qu'Allah ta'ala nous a créé et comment subhanallah, hein, cette machine humaine c'est quelque chose de performant et d'exceptionnel. Hein, mon médecin me disait encore il y a quelque temps, mon généraliste, un musulman bien sûr, m'a dit que l'être humain n'utilise qu'un % de son cerveau. C'est que même l'homme le plus intelligent, il ne sait pas quel est son potentiel, quelle est la force qu'Allah Ta'ala a mis dans le cerveau humain, subhanallah. Il a dit, un être humain, même si on a l'impression que la personne travaille à fond, c'est un intellectuel ou je ne sais quoi, on n'utilise pas plus qu'1% du cerveau. Ce n'est pas un mécanicien qui m'a dit, ce n'est pas un vétérinaire qui m'a dit, c'est un médecin. Subhanallah, tellement, subhanallah, Azza wa Jalla a créé l'homme et lui a donné un taqa, un pouvoir, subhanallah. Mais malgré ça, hein, c'est un pouvoir qui reste limité. Alladhi khalaqa fa sawwa, Allah Ta'ala le créateur, et tout ce qu'Allah Ta'ala a créé, Allah Ta'ala l'a créé de la meilleure des façons. Et regardez le surat al-Hajj, lorsqu'Allah Ta'ala interpelle ceux qui adorent les idoles, pour qu'ils comprennent bien que comment pouvez-vous adorer des pierres, comment pouvez-vous adorer des statues, comment pouvez-vous adorer des choses que vous avez sculptées vous-même, et que ces choses-là ne peuvent donner la vie à une créature, et si une créature les importune, ceux que vous adorez ne peuvent même pas se défendre. Ya ayyuha an-nas, duriba mathalun fastami'u la, innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba. Hein, tous les idoles que vous adorez, toutes les divinités que vous prétendez adorer, même s'ils se réunissaient, jamais ne pourraient créer ne serait-ce qu'une mouche. Wa law ijtama'u la, wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqiduhu minhu. Regardez les gens qui adorent des statues. Si une mouche se pose sur cette statue, fait caca sur cette statue, est-ce que cette divinité est capable de chasser cette petite créature? Donc comment un être humain qui réfléchit peut-il se prosterner devant quelque chose qui est inerte, qui n'a aucune vie, qui ne peut procurer ni du bien, ni causer du mal à une personne? Donc alladhi khalaqa fa sawwa, et on avait vu la dernière fois alladhi qaddara fa hada, ça c'était un grand chapitre qu'on a volontairement pas trop développé, hein, qui a déterminé et guidé. On a vu que tout ce qui se passe de la création, c'est par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui se passe sans l'ordre et l'autorisation d'Allah azza wa jalla. Après, il y a le taqdir kauni et shari'i. C'est-à-dire, Allah ta'ala peut décider que telle chose se passe, mais ça ne se passe pas comme cela devrait se passer selon la shari'at. C'est-à-dire des péchés qui sont commis ou des gens qui font des injustices, mais Allah laisse quand même ces gens accomplir ces injustices. C'est également par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, mais pour une hikma. Les ulama donnent comme exemple, regardez le kufr de Abu Lahab. Abu Lahab était kafir, ça c'était également par ordre d'Allah. Allah a décidé que cette personne n'est pas le iman. Mais selon le taqdir shari'i, logiquement, Abu Lahab aurait dû être musulman. C'est ce que Allah attend de chaque personne. Mais ensuite, Allah Ta'ala décide qu'il y a des gens qui trouveront la guidée et d'autres qui ne trouveront pas la guidée. Wallazi qaddara fahada, et on avait vu la dernière fois wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu ghutaan ahwa, et qui a fait pousser le pâturage et en a fait ensuite un foin sombre, c'est-à-dire de tout ce qu'on voit, hein, parmi les choses inanimées, on a vu alladhi khalaqa fasawwa, les êtres animés, humains ou animaux ou autre chose. Maintenant, le monde végétal aussi, tout ce qui pousse, tout ce qui sort de la terre, subhanallah, ça aussi c'est de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil, dit un scientifique, de créer une germe de blé ou alors de créer, je ne sais pas mal, la cellule souche, hein, qui constitue un litchi ou une mangue ou n'importe quoi, personne n'est capable de le faire. Cloner, tout le monde, les scientifiques savent le faire, ils savent cloner, mais créer, ça c'est quelque chose qu'aucune créature ne peut prétendre au sifa de khalq, ne peut prétendre au sifa de création. Ça c'est quelque chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, la dernière fois on avait dit que les ulama disent que si on sait, on est conscient qu'Allah est le plus élevé, qu'Allah est le créateur, qu'Allah azza wa jal a tout prédestiné, ben c'est auprès de lui qu'on doit chercher la guider, c'est auprès de lui donc que le musulman doit s'orienter pour rechercher le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà, et cela passe uniquement par le biais de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était un petit récapitulatif de ce qui a été fait avant les vacances. Les versets qu'on a lus aujourd'hui, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut. Alors, ce verset parle de la grandeur du Coran. C'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce verset-là est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une promesse qu'Allah Ta'ala fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chaque verset qui lui sera révélé, ce verset restera à tout jamais gravé dans son cœur. Il ne l'oubliera pas. Parce qu'au début de la révélation, lorsque l'ange Jibril alayhi salam a porté le verset du Lawh Mahfouz au prophète alayhi salatu wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur d'oublier les versets. Jibril, parfois, il a porté une petite sourate. Tabat Yada, c'était petit. Parfois, c'était des pages et des pages, des grands chapitres. Le prophète craignait d'oublier un verset et qu'il ne puisse pas faire sa mission qui est de tablir, de propager. Alors, il se hâtait à répéter les versets que Jibril alayhi salam nous révélait afin qu'il le mémorise. Mais Allah Azza wa Jal a tenu à rassurer le prophète alayhi salatu wa salam que ce Coran, nous te l'avons révélé et nous avons pris l'engagement de le protéger. De le protéger contre toute falsification, modification, mais également contre l'oubli. Et le prophète alayhi salatu wa salam ne peut pas oublier un verset du Coran. Même une lettre du Coran, notre prophète ne peut pas l'oublier. Même si c'est des grands chapitres qui lui ont été révélés, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ce Coran reste gravé dans le cœur du prophète alayhi salatu wa salam, parce que ce Coran doit être transmis aux sahaba. Et les sahaba vont le transmettre aux tabi'in, atba'a tabi'in, jusqu'à ce que, après 14, 15, 16 siècles, ce Coran nous est parvenu. Et ça, c'est la première étape de la protection du Coran. Nous connaissons la protection du Coran, que personne ne peut imprimer un Coran avec des pages en moins ou en plus en changeant des accents. Tout le monde reconnaîtrait l'erreur et on supprimerait les mauvaises impressions. Mais également, Allah le protège de cette sorte aussi, que le prophète, alayhi salatu wasalam, le garde en mémoire immédiatement, après une première lecture. Ce qui est normalement chose impossible. Si moi je mène un texte, en plus pas un texte comme dans un journal local tout bête avec un français de base, non, un texte avec éloquent, très compliqué à comprendre, avec des figures de style particulier, et que je vous lis 4 pages. Est-ce qu'une personne peut, après une seule écoute, parce que Jibril ne répétait pas les versets, c'était une fois qu'il lui était récité, est-ce qu'une personne peut, là, comme là, tout ce qu'on a dit par exemple, bon, ce n'est pas un grand niveau linguistique, mais est-ce que vous pouvez répéter mot pour mot les 30 minutes de programme? Impossible. Je dis mot pour mot parce que le prophète n'a pas le droit de se tromper dans les versets du Coran. C'est Allah Ta'ala dit qu'il dit Allahu Ahad. Le prophète n'a pas le droit de dire aux sahaba qu'il dit Inna Allah Ahad. Non, c'est mot pour mot. Ça, c'est Wahi min Allah. Personne n'est capable de répéter 30 minutes d'un discours en l'écoutant une seule fois. Mais le prophète le pouvait. Et ce n'était pas dû à son intelligence, c'est pas parce qu'il était, subhanallah, intelligent, le prophète était intelligent, bien sûr. Ça, c'est l'ordre d'Allah. Allah Ta'ala a décidé que le prophète mémorise et qu'il soit capable de le répéter aux sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. C'est également là une leçon de tawakkul ala Allah. Une leçon de confiance en Allah. Que c'est pas l'intelligence, c'est pas la force, c'est pas les compétences de la personne. Non, ce Coran, Allah, il met dans le cœur de qui il veut. Analysez vous-même, il y a parfois des gens qui sont très intelligents, qui font des brillantes carrières, universitaires, scientifiques ou autre chose. Ils essaient de mémoriser le Coran, ils n'arrivent pas. Peut-être qu'ils arrivent à mémoriser des poèmes ou autre chose, subhanallah, mais le Coran, ils n'arrivent pas. Ou alors, ils arrivent, mais très peu ou avec difficulté. Parce que c'est Allah qui décide dans le cœur de qui il va mettre ce Coran. Et si Allah Ta'ala a décidé de mettre ce Coran dans le cœur d'une personne, que la personne soit intelligente ou moins intelligente, avancée ou pas trop avancée, sur le plan scolaire ou autre chose, si ce Coran entrera dans le cœur de la personne, si Allah a décidé que cette personne devienne un hafiz, cette personne devient un gardien du Coran. Illa ma sha Allah. Alors là, ça nous interpelle. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut. Alors, les ulama, rahimahullah, ils expliquent que lorsqu'Allah Ta'ala dit illa ma sha Allah, ça veut dire qu'il y a certains passages du Coran qu'Allah Ta'ala a décidé que le prophète alayhi salatu wassalam finisse par l'oublier. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nasikh wa mansukh, les versets qui ont été abrogés par Allah Azza wa Jal. Il y a une certaine époque, Allah a pu décider que la religion se pratique d'une telle manière, et ensuite Allah Ta'ala décide de changer par rapport au changement qu'il y a dans les gens, Allah Ta'ala décide de reprendre un verset. Ça, c'est ce qu'on appelle un nasrou. Ça, il n'y a pas beaucoup dans le Coran, mais il y a des versets qui ont été abrogés, et il y a deux catégories de nasr, on ne va pas entrer des détails. Il y a le nasr, ma'abaqa in nas, il y a le nasr, hein, les versets sont abrogés, tout en laissant le verset. Et puis il y a certaines fois où le verset est abrogé, et Allah Ta'ala également reprend le verset concerné. Mais concernant la révélation qui est propagée par le prophète alayhi salatu wassalam, jamais notre prophète n'a oublié ne serait-ce qu'un verset. Il est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam d'écouter un sahaba lire un verset du Coran, et en l'écoutant, il se rappelle d'un verset qu'il avait oublié. Ça y a des hadiths. Mais c'était ba'dat tablir, après la propagation. Après que le prophète ait propagé un verset, ça peut être un verset qui a été révélé il y a 2 ou 3 mois, hein, le prophète peut oublier un passage, et quand il se rappelle, quand il l'entend, il se rappelle. Mais avant la propagation, Allah a décidé que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'oublie pas, ne serait-ce qu'une lettre du Coran, parce que ce qui lui a été révélé, se doit d'être protégé jusqu'au Qiyam. Et ça, c'est un des miracles du Coran, le fait qu'il soit protégé, qu'il soit le même que lorsqu'il a été révélé au début, le premier Iqra qui a été révélé dans la grotte par l'ange Jibril alayhi salam, c'est le même Iqra que nous sommes en train de lire, c'est le même Iqra que nos enfants mémorisent de nos jours. Subhanallah. Et sans qu'il n'y ait eu jamais de modification, sans qu'il n'y ait de contradiction entre les versets du Coran. Ça, c'est un autre i'ajaz encore. Regardez, quel est le prophète dont l'histoire revient le plus dans le Coran? Moussa alayhi salam. L'histoire de Moussa alayhi salam est une des histoires les plus répétées de le Coran. Malgré le fait que l'histoire soit répétée et répétée et répétée, avec souvent d'autres détails, jamais il n'y a de contradiction entre deux versions de la même histoire. Chose qu'on ne trouve pas dans aucune autre révélation d'avant. Que ce soit Taurat, Zabur ou Injil, il y a des contradictions, Allah musta'an, contradictions qui ont été apportées par les hommes, bien sûr. Parce qu'il y a eu falsification. Regardez dans la Bible elle-même, l'Injil, dans les 4 versions, j'ai plus en tête le nom des versions, il y a celui de Bernabé, il y a celui de Jean, celui d'Allah Musta'an, c'est des ma'loumats qu'on a un peu oubliés. Entre les 4 versions, il y a parfois une histoire qui se retrouve dans les 4 versions, et les versions sont contradictoires. Et parfois c'est plus que contradictoire, c'est totalement opposé. Il y a des détails qui sont totalement opposés. Ça nous fait bien comprendre qu'il y a eu un changement de ces kutub. Il y a eu malheureusement une falsification. Chose qui n'existe pas dans le Coran. Chose qui ne peut jamais avoir lieu dans le Coran, malgré qu'il y ait le Coran dans le monde entier, de tous les continents. Jamais il n'y a de contradiction entre le Coran, ni même entre différents versets qui traitent d'un même point ou d'une même histoire. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que l'homme dit, ce que l'homme fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également wa ma yakhfa, ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est Allah seul qui le connaît. Comme Allah dit le Coran, wa laqad khalaqna al-insan. Allah t'a dit que c'est lui qui a créé l'homme. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Et Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dedans. Allah Ta'ala, en ce sens, sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On pense à quelque chose, on a une mauvaise pensée pour quelque chose, pour quelqu'un ou autre chose. Allah Azza wa Jal sait pertinemment qu'est-ce qu'on est en train de penser. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah Ta'ala est plus proche de nous que, hein, si je ne trompe pas le terme, c'est la veine jugulaire. La veine qui est dans la gorge de l'être. Allah Ta'ala est tellement proche de nous, c'est une métaphore, pour qu'on comprenne bien qu'Allah sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour ça que le hadith dit « Innamal a'malu bin niyat ». Les actions n'ont de valeur que par leur intention. C'est-à-dire qu'une personne, il y a 2 personnes sur un même sort qui accomplit la salat, ou 2 personnes qui sont en train de lire le Coran côte à côte, il y a une personne qui est récompensée pour sa lecture, il y a une personne dont la lecture est en train de l'enfoncer. Il y a une personne qui est récompensée, et il y a une personne dont la lecture est une cause de destruction. La première qui est récompensé parce que son niyat est sincère. La personne est sincère, elle lit le Coran pour rechercher le contentement d'Allah, c'est un ibad. L'autre personne le fait peut-être par ostentation. Mais est-ce que moi, même si je suis Moulissa, Moufti, Fundi, ou Cheikh, ou le Hadith, ou je ne sais quoi, est-ce que je suis en droit de juger? Ah, lui, il est sincère, lui, il ne fait pas ostentation. Là, wallah, je n'ai pas le droit même d'avoir cette mauvaise pensée. Ça, c'est interdit, ça, d'avoir une mauvaise pensée sur son prochain. Le seul qui connaît, c'est Allah. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est celui qui nous rétribue. Il nous rétribue en fonction de ce qu'il y a dans nos cœurs. Des actes de valeur que par les intentions, et c'est uniquement celui qui rétribue qui connaît exactement quelle est notre intention quand on accomplit telle action. Également, deux personnes qui font leur salat. Il y a une personne qui est extrêmement concentrée, il y a une personne qui se tient dans la même position, pareil que lui. Il ne regarde pas partout, hein. Il regarde par terre, mais son esprit est complètement ailleurs. Je ne peux pas dire que lui il est concentré, lui il a khushu'. Lui, il n'a pas de khushu', il est d'arafla. Non, je ne peux pas. Mais Allah, lui, il le sait. Allah, il sait que sa salah a une valeur extraordinaire. Et l'autre personne, sa salah, elle a moins de valeur parce qu'elle est en train de penser au dunya, en train de penser à ses courses, à ce qu'il va faire demain, etc., etc., etc. Donc, c'est Allah seul qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, mes chers frères, comprenez bien. Si vous entendez des discours qui vont dans le sens où, oui, tel grand bouzou qui connaît ce qu'il y a dans mon cœur, tel grand bouzloup, tel grand personnage, il sait quels sont les péchés que j'accomplis. Lui, il connaît mes défauts, il saura me rectifier parce qu'il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, on n'a pas le droit même d'y croire. Parce que c'est innahu, Allah seul, ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yani, aucune personne, mise à part Allah, azza wa jal, ne connaît ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Et personne donc n'est en droit de prétendre savoir quels sont les défauts de son prochain, je sais ce qu'il te faut, parce que moi je sais bien de ton cœur. Ça c'est haram, haram, ça c'est une erreur énorme dans les aqidah, une erreur énorme dans les croyances. Regardez Hadith al-Ifq, subhanallah. Quand on fait dire un élève aujourd'hui le sabbat, sa leçon, et on parle du Hadith al-Ifq. Lorsque des gens ont osé accuser Aisha radiallahu anha d'avoir accompli le zina, c'était des munafiqines, des hypocrites. Le but c'était quoi? C'était de casser la communauté. De nos jours, il y a les mêmes munafiqines, ils sont là. Je ne sais pas où ils sont, mais ils y sont. Shayatin al-insi wal-jin. Parmi les diables, il y a des êtres humains diables, avec option diable. Ça, il y en a aussi. Leur objectif, c'est d'apporter la zizanie, semer la discorde dans une communauté. Quand tout va bien, on va essayer de semer la discorde en deux alim. Ou alors en tel alim, le imam et le ma'moum. Entre le responsable et celui qui travaille sous sa cour, etc., etc. Entre le père et le fils, entre le mari et sa femme. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui sont là, ils ont un regard destructeur. Il y a des gens qui ont un comportement tellement exécrable, c'est-à-dire ils ont un regard rempli de jalousie. Ils sont là pour casser, ils sont là pour envier, etc., etc. Subhanallah, c'est des défauts ça. Allah musta'an. Donc, est-ce qu'on en était là? On est parti un peu trop loin, on était tellement motivé avec le mauvais monde. Aïcha, c'était des akallah, c'était des munafiqin. Le but c'était de casser la communauté. C'est les mêmes shayatin al-ins. C'est les mêmes hypocrites qui ont fait en sorte qu'il y a eu التفريق بين الشيعة والسنية. C'est eux qui étaient à la base de la scission qu'il y a eu entre les sunnites et les chiites. Lorsqu'il y a eu Ma'rakatul Jamal, etc. Lorsqu'il y a eu l'armée de Muawiyah et l'armée de Ali, radiyallahu anhuma, et qu'ils étaient, il faut qu'on rappelle le cours de l'histoire, et qu'ils s'étaient réunis. Chacun, ils avaient leurs hommes avec eux. Ils étaient réunis, ils allaient discuter. Et la discussion allait dans le bon sens. Il allait y avoir un sulh, un traité, pas de paix, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Ils allaient trouver un terrain d'entente pour trouver une solution aux divergences. Alors là, les munafiqines, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Les munafiqines voulaient qu'il y ait la guerre entre les deux fariq, entre les deux groupes. Alors ils se sont dit, écoutez, là, ça sent le roussi, hein, ils sont en train de s'entendre, donc ce qu'on va faire, demain à l'aube, on va démarrer les hostilités. Par exemple, moi je suis dans un camp, et le frère, je comprends nous encore, hein, Mohamed? Luqman, un peu de Nikan, a dit que nous non. Excusez, hein. Madame a fait l'autre nom. Aham Shaya, moi, laisse tomber. Alors, moi, je suis dans un camp, Luqman est dans l'autre camp. On est des hypocrites. Le but, c'est que nos camps s'affrontent. Et on voit que tout va bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je dis à l'autre personne, demain, fais semblant de m'attaquer. Et moi, je fais semblant de répliquer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il dit, ah, le camp de Muawiyah nous attaque. Donc, il répond. Il dit, ah, le camp de Ali est en train de nous attaquer. Et là, dans la pagaille, hein, les gens qui sont avec eux, ils se sont mis à se battre. Et c'est comme ça que la bataille a commencé. Et quand Ali, Muawiyah, ils ont vu ce qui s'était passé, ils étaient les premiers à être désolés. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Ra'iya, dans la tête de ces gens, pour s'affronter sans qu'il n'y ait eu l'ordre du Amir, sans qu'ils comprennent quelle était la source du conflit. Ça, c'est le travail des munafiqin. Et inutile de vous dire, ces munafiqines avant, ils étaient des quoi. Et donc, pour l'histoire de Hadith al-If, il y avait des munafiqines, des hypocrites, qui voulaient donc casser la communauté. Ils ont accusé Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha d'avoir accompli le zina. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Et notre prophète alayhi salatu wassalam avait réuni les sahaba et il avait dit que ma balu aqwamin, comment cela se fait-il qu'il y ait des gens qui osent dire telle chose, telle chose, telle chose. Le prophète m'a expliqué, il a fait les reproches, mais il a dit une hikmah sans dire les noms des gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne savait pas exactement qui étaient les personnes à l'origine du fitna. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Subhanallah, on a Nabiullah. Le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne sait pas exactement qui sont les gens fautifs. Alors de nous voir comment une personne peut proclamer, connaître ce qu'il y a dans le cœur du prochain, avoir un pouvoir, je ne sais quoi. Allah musta'an. Il faut être concret. On va voir dans un instant qu'on a une religion qui est simple, qui est facile. Ce n'est pas une religion où tout tourne autour du surnaturel. Non. Le ilm al-ghaib, ça c'est pour Allah azza wa jal. Maintenant, dans nos relations entre nous, il n'y a pas de règle. C'est une religion qui est pratiquée de la même manière pour tout le monde. Il n'y a personne qui a un pouvoir supérieur. Et il n'y a pas une personne non plus qui a une compréhension supérieure aux autres, qui a une compréhension divine, une inspiration divine qui vient de Dieu, qui lui permet d'avoir une lecture spéciale des textes. Non. Autrement, ça aurait été la destruction pour cette Ummah. Pourquoi? Parce que chacun aurait proclamé que j'ai moi ce ilm ladoun. Moi, j'ai cette science infuse qui vient de Dieu. Alors, en Turquie, lui, il a le ilm ladoun. En Inde, il l'a. Au Pakistan, il l'a. Au Bangladesh, il l'a. En Afrique du Sud, il l'a. En Zambie, il l'a, etc., etc. En Arabie, il l'a. Au Yémen, etc. Et chacun se verrait en droit de dire que Allah, il veut ça de nous. Notre prophète a dit telle chose, même s'il n'y a pas le Coran et les hadiths. Mais nous, on sait quelque chose que vous ne savez pas. Ça, ce serait la destruction de cette Ummah. Et ce principe irait à l'encontre de la protection des textes. Protection du Coran et protection des paroles prophétiques, comme on l'a déjà expliqué avant. Donc pour revenir, pour retrouver le fil du tafsir, du ayah, hein, « وَمَا يَخْفَى » Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. « إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ وَمَا يَخْفَى » Seul fait comprendre également qu'on n'est pas en droit de juger notre prochain. Il ne faut pas juger notre prochain. Il faut arrêter. Ça, c'est un défaut qu'on a ici dans notre communauté. Il suffit que quelqu'un, la figure ne nous revient pas trop. Ah, ça, un peu, machin, ça, l'école. Là, wallah. Parfois, c'est le contraire. Vous voyez quelqu'un, vous ne le sentez pas, et puis après quelques relations, vous allez parler avec lui, subhanallah, vous trouvez que cette personne est remplie de qualités. Ce n'est pas parce que la personne vient d'un autre village, ou que la personne n'a pas les mêmes origines que nous, ou la couleur de sa peau est différente, ou que la personne n'a pas le même niveau social que nous, ou autre chose, que c'est quelqu'un de pas bien. Au nom de quoi? Subhanallah. Si notre prophète alayhi salatu wassalam devait juger les compagnons en fonction de leur couleur, notre prophète n'aurait pas mis Bilal al-Habashi radiallahu anhu au sommet de la Kaaba pour donner le premier adhan de tarikh Makkah, de l'histoire de Makkah al-Mukarramah. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est Allah seul qui sait. Et nous n'avons pas le droit de juger notre prochain. C'est Allah qui est le seul juge. Nous devons d'avoir des relations correctes avec notre prochain par amour pour Allah. C'est ce qu'on appelle al-hubbu fillah. Aimer notre prochain pour Allah. N'allez pas chercher qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, comment dit, que quoi, comment. C'est un mu'min ou c'est un kafir? C'est un mu'min, khalaf. C'est un mu'min. Il a la ilaha illallah dans son cœur. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Inna mal mu'minuna ikhwa. Khalaf. On est frères en islam. Le reste, subhanallah. Allah donne la possibilité de se corriger. Et le mu'min est mir'ah, est un miroir pour moi. Je vois mes défauts à travers lui, ça me permet de me corriger. Il voit mes défauts, ça lui permet de le corriger. Il va voir mes qualités, il va essayer d'en acquérir, etc. etc. Vous voyez? Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Encore 5 minutes, inshallah. Wa nuyassiruka lil-yusra. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Les ulama, rahimahumullah, on va terminer avec ce verset, magnifique verset. Les ulama, rahimahumullah, disent que à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que la religion qui a été accordée à notre prophète alayhi salatu wassalam pour nous, pour musulmans, pour la umma, c'est une religion facile. C'est une religion extrêmement simple, qui ne demande pas de grands sacrifices. On n'a pas besoin de délaisser femmes et enfants et biens pour devenir un vrai mu'min. On n'a pas besoin de devenir un ascète, qui est souvent ascète aussi, pour devenir un proche d'Allah Azza wa Jal. C'est pas que je vais me rapprocher d'Allah en délaissant ma famille, en délaissant mes biens, en abandonnant mon travail, ma voiture et tout. Je vais mettre un longhi avec un truc en haut dessus et je vais aller dans la montagne, non pas Salazie, le Fréguen Salazie, d'un petit coin, pas PhD Salazien, je vais aller à ma fat et tout, je vais prendre une petite cabane, rester là-haut, faire des croulants. C'est bien, je me coupe du dunya, mais ce n'est pas ça le secret. Ce n'est pas ça la solution pour devenir un mu'min. Vous savez, il y a un hadith qui dit, hadith, ça fait longtemps que je veux ce hadith, que je n'ai pas les termes en tête, que le musulman qui fréquente les gens et qui fait preuve de patience dans ses relations avec les gens, c'est-à-dire quand vous fréquentez les gens, vous allez fréquenter des gens qui sont tranquilles, des gens qui sont moins tranquilles, qui vous agacent, qui vous ennuient, etc. Celui qui fait sabar dans la vie de la communauté, cette personne a plus de valeur, plus de vertu que celui qui s'isole des gens. Parce que celui qui est isolé des gens, il fait son dhikr, son salat et tout, mais khalas, en termes de akhlaq, mu'amala, il n'a pas de qualité à développer parce qu'il ne fréquente pas les gens. Il s'est isolé, d'accord? Tandis que celui qui vit avec les gens, parfois il doit supporter le caractère de son prochain, etc., etc. Il fait sabbat, il montre un bon comportement. Ce musulman-là, il a plus de valeur auprès d'Allah, subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une religion extrêmement facile. Je peux être un waliyullah, un proche d'Allah, tout en étant commerçant, tout en étant médecin, tout en étant professeur, enseignant, pas forcément en étant alim ou mufti. C'est-à-dire que n'importe quel musulman, quelle que soit sa profession, quelles que soient ses activités, il peut devenir un homme proche d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire des adhyanes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchie comme dans le christianisme, le judaïsme, où il y a vraiment les religieux qui ont fait preuve d'ascétisme, des rohbans qui ont tout quitté pour vivre pour Dieu. Il n'y a pas de monastère de l'islam. Même celui qui a la science, il se doit de trouver des asbab pour se nourrir, pour avoir sa subsistance halal. Ça, c'est une religion magnifique, ça. Le fait que n'importe qui peut se rapprocher d'Allah, il suffit de développer la crainte d'Allah dans son cœur, il suffit d'appliquer les ordres d'Allah dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec les gens, avec la famille, c'est-à-dire d'une manière générale, pratiquer sa religion, rester éloigné des péchés, et on deviendra un waliyullah, on peut devenir quelqu'un qui est proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on terminera avec une citation magnifique, que je n'ai trouvée que dans Ibn Kathir, rahimahullah. Je l'ai noté tellement, il dit qu'Allah nous a donné « Shar'an, sahlan, samhan, mustaqiman, adla, la i'wijaja fihi, wa la haraj, wa la usf. » C'est magnifique ça. Il dit qu'Allah nous a donné une religion « Shar'an, sahla », une religion facile à pratiquer. Il n'y a pas une action dans notre dîme qui est compliquée. Il n'y a pas une action qui est impossible d'accomplir. L'action la plus dure, c'est quoi? Peut-être le hajj. Et le hajj, si quelqu'un est malade, la personne n'a pas à aller faire le hajj. On payera quelqu'un qui fait le hajj. Quelqu'un va au hajj, il ne peut pas aller taper chez les femmes, quelqu'un tape, etc., etc. Le sang est difficile, quelqu'un est malade, une femme attend un enfant, ou alors quelqu'un est très âgé, ou quelqu'un est diabétique ou autre chose, le sang devient difficile, voilà, la personne ne jeûne pas, il donnera à manger à un pauvre. C'est-à-dire que c'est une religion sahla, facile, il n'y a aucune complication. Samha, c'est une religion qui pardonne beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous avez, ça rejoint le sens qu'on vient d'expliquer, s'il y a un souci, ben, il y a toujours une facilité, il y a toujours une porte de sortie. Mustaqima, c'est une religion qui est droite, il y a un objectif, il n'y a pas de contradiction et il n'y a rien d'incohérent dans la religion. Ce dîn, vous pouvez l'analyser au microscope, vous pouvez le retourner, l'analyser dans tous les angles, n'importe quel prisme. C'est une religion qui est cohérente, qui est construite, dans laquelle il n'y a aucune injustice et il n'y a rien qui n'est pas concret et qui peut être compris des gens. Adla, c'est une religion qui est juste. Il n'y a pas de vol dans ce dîn. Là, Iwija, regardez dans certaines autres religions, pas monothéistes, où il y a le principe de caste. Il y a des castes. Il y a le tabaq al-ulya, il y a les gens qui sont les nobles, ceux qui sont moins nobles, etc. etc. C'est-à-dire que lui, il est né dans le tabaq, il est né dans la caste des gens nobles. Il n'a rien fait pour ça, mais il est né avec eux. Donc, tous les honneurs. L'autre, malheureusement, il est né avec les gens qui sont au plus bas de l'échelle, de la pyramide. Donc, il pourra faire ce qu'il voudra, il ne sera jamais comme celui qui est au-dessus. C'est une injustice, ça. Mais dans le dîn, non. Même si quelqu'un est né sous une autre religion, et à l'âge de 50 ans, cette personne accepte la shahada, subhanallah, la personne peut devenir un waliullah en deux jours, ou en une journée, subhanallah. Si vraiment son cœur s'est orienté à fond vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la perfection qu'il y a de ce dîn, toute la justice qu'il y a. La i'wijaja fihi, wa la haraj, wa la us, aucune difficulté, aucune incohérence, aucune zone d'ombre de ce dîn. Tout peut être expliqué. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de choses qui va dire trop compliqué, on ne pourra pas comprendre. Il vaut mieux que tu ne poses pas de questions. Non, tout peut être expliqué, à condition qu'on ait en face de nous des gens qui sont capables de comprendre. Et ça, ça nous permet de rejoindre un verset qu'on va, voir la prochaine fois. Hein, Fadakir inna fa'ati dhikra, on a souhaité un passage. Mais, subhanallah, quand Allah ta'ala dit Fadakir inna fa'ati dhikra, Ali radiallahu anhu dit qu'il explique qu'il ne faut pas expliquer aux gens des choses qui sont tellement compliquées de la religion qu'ils ne pourront soit qu'ils ne vont pas comprendre, soit ils vont mal interpréter. Parce que si on donne à des gens qui n'ont pas le potentiel pour comprendre des choses d'un certain niveau, la personne peut mal comprendre ou ne pas croire ou mal interpréter. Mais mis à part ça, il n'y a rien de rien qui est compliqué ou qui n'est pas accessible dans notre vie. Et à travers ce verset, certains ulama, rahimahullah, disent également que nous comprenons que, subhanallah, même dans les masalas aussi compliquées que le taqdir, que le destin, malgré ça, personne n'est en droit de dire que, par exemple, si je désobéis à Allah, azza wa jal, c'est parce qu'Allah ta'ala l'a bien voulu. C'est parce qu'Allah ta'ala l'a décidé dans mon destin. Ça, parfois, il y a des gens qui disent ça. Ils ont fait le zina, ou ils disent, de toute façon, je n'aurais pas pu l'éviter. C'était dans mon destin. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'Allah ta'ala attendait de toi que tu accomplisses ce zina? Est-ce qu'Allah ta'ala attendait de toi ce soir que tu insultes ta mère? Est-ce qu'Allah ta'ala attendait de toi que tu ailles à la banque signer un contrat avec des intérêts ou telle chose ou telle chose? C'est-à-dire que autant on accepte que tout vient de la part d'Allah, en même temps la cohérence qu'il y a dans notre din, où est la cohérence? Si je vous dis que tout était destiné, je dis d'accord, mais donc si demain, alhamdoulilah, je fais tahajjud, c'est qu'Allah a décidé. Si demain je me lève à 9h, c'est qu'Allah l'a décidé. Non! La cohérence, c'est où? C'est lorsque notre prophète, alayhi salatu wasalam, dit « I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala » Faites les actions, travaillez, faites les efforts, chacun aura ce qui lui a été destiné. Mais l'être humain se doit de faire des efforts. Et le commentateur dit quelque chose de magnifique, il dit que quand quelqu'un accomplit un péché, est-ce qu'il y a eu une personne qui vous a obligé d'accomplir ce péché? C'est l'exemple classique qu'on donne, cet élève qui arrive près de la rue Pasteur, où il y a à droite la masjid, et s'il va tout droit, il y a le plaza, il peut aller au cinéma. Est-ce que celui qui va au cinéma, est-ce qu'il a été transporté par des shayatines jusqu'à son siège? Et celui qui va à la masjid, est-ce qu'il y a des anges qui l'ont porté sur un trône pour l'amener dans le premier sens? Non, c'est lui qui a décidé. Et donc, dans ce sens, personne ne peut se dire ou personne ne peut justifier un péché en se disant qu'il y a le destin, cela a été prédestiné par Allah, Azza wa Jal, je n'y pouvais rien. Parce que si quelqu'un accomplit une action alors qu'elle est obligée de le faire, de toute façon, ça c'est pardonné par Allah. C'est-à-dire qu'il y a quatre choses qui sont pardonnées automatiquement. Les péchés qu'on accomplit par oubli, on a oublié, on ne savait pas, on a fait un péché. On a oublié par erreur, ça aussi c'est pardonné par Allah. Quand on ne savait pas, par djahl, quelqu'un ne savait pas que telle chose était haram, la personne l'a mangée ou l'a consommée, ce n'est pas un péché. D'accord? Par exemple, quelqu'un m'invite chez lui, il me sert quelque chose, un poulet ou autre chose qui venait d'un pays douteux, et j'ai mangé, et après je me rends compte que ça venait de tel endroit, c'est pas halal, en aucun cas je suis pécheur. Et en aucun cas cette consommation aura une quelconque conséquence sur mon iman, parce que je ne savais pas. Allah Azza wa Jal n'est pas valim. Allah, il ne va pas agir de la sorte qu'il ne savait pas, mais il y aura telle conséquence. Non! C'est-à-dire, ce qui a été fait par inadvertance, par oubli et par erreur sont pardonnés par Allah. Et également, quand on a été forcé de faire quelque chose. Alors, si on enlève ces quatre cas de figure, qu'est-ce qui reste? Il reste les passions, l'envie, les pulsions. Donc, quand je fais un péché, ce n'est pas par oubli, par erreur, par inadvertance ou parce qu'on m'a obligé, c'est bien parce que j'avais envie de goûter au plaisir qu'il y avait de le péché. Tout simplement. Donc personne n'est en droit de se justifier, de justifier ses fautes en faisant référence au taqdir. Donc on va s'arrêter à là. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a fait un récapitulatif de ce qu'on avait déjà vu avant. Et on a vu le miracle du Coran, qu'Allah Ta'ala a décidé que le prophète والسلام, mémorise chaque verset, alors qu'il ne l'écoute même une seule fois. Et que notre prophète, والسلام, par le biais de cette mémorisation qu'Allah lui a accordée, il a pu transmettre chaque verset qui lui a été révélé à la totalité de la Oumma. On a vu également qu'il y a les versets qui ont été abrogés. Ça, Allah a décidé que cela soit également retiré du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. On a vu que Allah, c'est celui qui connaît l'extérieur et l'intérieur, et c'est uniquement Allah qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et on a vu, c'est une religion facile, hein, n'importe quelle personne peut devenir un proche d'Allah. Il y a un mode de vie, c'est le mode de vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a les ordres d'Allah, alayhi sawajal, et celui qui met ces choses-là dans sa vie tout en restant éloigné des péchés, c'est une personne qui, inshallah, deviendra un proche d'Allah. C'est une religion extrêmement facile. Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va essayer de clôturer le surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Et on va voir, quand est-ce qu'on doit faire le rappel. Dans quel cas, on doit faire le rappel et quand est-ce qu'il est mieux de ne pas le faire. On voit également qu'il y a deux catégories de personnes, man yarsha, et il y a ceux qui ont la crainte d'Allah. Quand ils écoutent les rappels, ils prennent conscience et ils mettent en pratique. Il y en a ceux qui ont le cœur bouché, on peut leur dire tout ce qu'on veut, ces personnes ne mettront jamais en pratique et on va essayer de clôturer le reste des versets. Inch'Allah, donc là on reprend les programmes. Je rappelle brièvement le programme, c'est quoi le vendredi donc, le tafsir. Inch'Allah, ce mardi, là, on va commencer le chapitre Dajjal, donc à la grande masjid de Saint-Denis. Mardi après la salat al-Isha à 20h45. Nous restait un dernier chapitre sur Imam Mehdi à compléter, sur les conquêtes, mais ça on va pas vraiment aborder le sujet. On va plutôt commencer le chapitre sur Al-Masih al-Dajjal. Et puis l'autre rendez-vous également, hein, c'est le lundi, hein, on avait oublié le lundi, une fois sur deux, c'est au Moufia, hein, les cours sur le tazkiyah, comment se purifier intérieurement, quels sont les péchés enfouis dans le cœur, quelles sont les qualités qui doivent être présentes dans le cœur du musulman, comment acquérir ces qualités et comment se débarrasser des péchés qui sont enfouis. Allah nous accepte, remplit nos cœurs de sincérité et de istiqama, d'estirama de rectitude dans ce qu'on fait, nous donne la possibilité de mettre en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.